bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Eh bien, d'abord, on va sacrifier aux traditionnels vœux, mais on ne les sacrifie pas trop. On veut vraiment vous souhaiter une bonne année. Et dans cette émission littéraire, eh bien, une bonne année remplie de bonnes et saines lectures. Hein. Un petit peu pour rêver, un petit peu pour réfléchir, un petit peu pour s'amuser. Au sommaire de cette émission, nous allons parler dans la première partie d'un des événements de la rentrée littéraire, puisque nous allons parler du dernier livre de James Ellroy, avec son traducteur, Jean-Paul Gracias. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, après quelques coups de cœur dont vous avez l'habitude, nous reviendrons sur un des auteurs les plus prolifiques et des plus talentueux du paysage policier français, on va dire, c'est-à-dire l'écrivain Jean-Bernard Puy, avec deux livres qui sont parus, l'un en 2009 et l'autre en 2010, et deux livres qui nous ont ravis. Donc, en ce début d'année, un événement littéraire, le dernier James Ellroy, le dernier roman traduit de James Ellroy, sort en France. Son titre, Underworld USA. J'espère ne pas avoir un trop mauvais accent pour prononcer ce titre, puisque nous avons le plaisir de retrouver le traducteur de James Ellroy, Jean-Paul Gracias. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de nous rejoindre. Je dois dire que je suis vraiment ravie de vous accueillir, car j'admire beaucoup le travail qui a été fait sur ce livre. Ce livre est, on va le voir, complexe, foisonnant. Et si j'ai pu l'apprécier autant, c'est vraiment grâce à vous. Donc déjà un grand merci et bravo.
Je vous remercie de tous vos compliments.
Donc, en deux mots, vous avez été enseignant, je crois.
Oui, j'ai été enseignant. J'ai enseigné l'anglais pendant 35 ans.
Voilà. Et donc, comment vous êtes arrivé à la traduction un petit peu pour vous
J'y suis arrivé il y a très longtemps. C'était un hasard de la vie parce qu'avant d'être enseignant, pendant que je faisais mes études, j'étais surveillant d'externat dans un lycée. Et un jour, j'ai été nommé au lycée Janson de Sailly, et comme collègue surveillant d'externat, comme moi, il y avait un certain François Guérif.
Ah oui, alors pour nos auditeurs, François Guérif est le directeur de collection de Rivage. Le Rivage Noir et Rivage Thriller existent grâce à lui.
Oui.
Voilà. Et donc l'éditeur de James Ellroy aussi.
C'est ça, mais avant Rivage, il a eu trois autres collections chez divers éditeurs et je travaille pour lui dès le début en fait.
Oui, vous êtes le traducteur de John Harvey, de certains livres de Robin Cook, de Barry Gifford, Jim Thompson aussi.
C'est ça, enfin Jim Thompson, j'en ai fait trois seulement, surtout ceux qui ont été publiés en France.
On ne peut pas dire trois seulement de Jim Thompson, c'est pas possible, désolé de vous contredire.
Pour moi, c'est de toute évidence, c'est le plus grand romancier du roman noir américain.
Eh bien, ça me fait plaisir parce que c'est un avis partagé.
Ouais.
C'est un grand romancier. Donc, on va revenir au livre de James Ellroy qui s'appelle Underworld USA. Donc, ce roman clôt la trilogie éponyme sur l'histoire des États-Unis de 58 à 72, c'est ça, à peu près ?
Exactement, oui.
Voilà.
Trois tranches de 5 ans chacune.
Voilà, donc le premier American Tabloid, le deuxième, je vous laisse dire le titre, j'ai trop peur de mon
American
accent.
American Death Trip en français, si on peut dire.
Voilà.
Parce que c'était pas du tout le titre original.
Et donc ce dernier, Underworld USA.
USA, qui a aussi un autre titre.
Voilà, pourquoi avoir choisi le titre de la trilogie et pas avoir gardé ce titre? Alors moi je le comprends peut-être pas bien, mais j'ai l'impression que il correspondait bien au torrent de sang et de choses qu'il y avait dans ce livre qui s'appelait donc Blood is a River.
Oui, mais c'était inutilisable comme titre parce que c'est une citation d'un poème. Et ce poème qui figure en tête du livre, je ne l'ai pas traduit exactement comme ça, c'était impossible de faire du mot à mot. Hein.
Oui.
J'ai traduit, enfin je me souviens pas, quelque chose comme Le sang court sur la terre. Bon, c'était pas un excellent titre pour un roman noir, je pense.
Oui,
c'est un poème du fin 19e siècle.
Hein. Oui, qui donc correspondait peut-être pas trop au style, effectivement, dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va essayer, beaucoup de personnes vont parler de ce roman, et j'aimerais bien sûr qu'on présente le livre, mais le travail de traduction est un travail fantastique, et j'aimerais qu'on passe le plus de temps possible à parler de votre travail sur ce livre et sur les autres, bien sûr. Donc, pour le résumer, si ce livre est résumable, si je dis que c'est une description minutieuse et presque caractérielle d'un monde en folie mené par une bande de pourris, est-ce que ça pourrait correspondre à quelque chose ?
Oui, c'est assez ça, oui.
Voilà.
Donc, je m'empresse de dire que je ne suis pas critique littéraire et je veux pas faire une analyse du bouquin. C'est pas mon boulot et pour moi, ce qui compte le plus, c'est le plaisir de la lecture.
Après, tout à fait.
Décortiquer les œuvres, je laisse ça aux spécialistes.
J'avoue que n'étant pas journaliste, breveté, on a un petit peu la même, on va dire, le même point de vue. Donc, un petit peu simplement au niveau de la structure, dès le début, le lecteur est prévenu. Il va lire en fait un énorme dossier.
C'est le principe de la trilogie entière.
Voilà. Et bon, pour justement peut-être mettre un petit peu l'auditeur au milieu de cette narration, justement pour éviter une critique littéraire énorme, je voudrais citer simplement une phrase du début.
Oui.
Donc ce roman résume, deux points ouvrés guillemets, la véracité pure des textes sacrés et un contenu du niveau des feuilles à scandale. Je trouve que ça résume assez bien tout ce qui va suivre, c'est-à-dire 830 pages. Voilà, donc on va retrouver, on est après l'assassinat de Bob Kennedy et de Martin Luther King.
Oui, qu'on voit en détail à la fin du volume 2.
Voilà, qui suit, donc en fait on reprend exactement à la fin d'American Death Trip.
Exactement, dont il fait un bref résumé au début du troisième tome.
Voilà.
C'est bien pratique pour le lecteur.
C'est bien pratique pour le lecteur. Et on va suivre donc trois personnages principaux qui sont eux fictifs. Dwight, un flic, un ex-flic, Wayne, et puis un détective privé, Crutch.
Voilà.
Crutch, oui, c'est ça. Oula, désolé.
Crutch, oui, c'est l'abréviation de son nom de famille, Crutchfield.
Voilà. Et on va avoir deux femmes aussi qu'on va suivre très, très importantes parce qu'elles symbolisent beaucoup, beaucoup de choses dans ce roman. Karen, Joanne, j'oublie Célia aussi.
Oui.
Des dizaines et des dizaines de personnages secondaires. Et puis aussi, évidemment, puisque en deçà de ça, on a toute l'histoire des États-Unis, plus centrée d'ailleurs sur Los Angeles, qui est la ville de prédilection de James Ellroy. C'est une immense fresque historique où on va voir l'élection de Nixon, les vilainies, pour paraître polis, de J. Edgar Hoover, le chef de la CIA.
On va voir centrale.
Voilà, Howard Hughes aussi. Oui. Et puis des dizaines. Sal Mineo, par exemple, est un personnage que je ne connaissais pas du tout.
Sal Mineo, vous l'avez forcément vu au cinéma.
Oui, après je me suis renseignée, mais je
sais. Si vous avez vu la fureur de vivre,
voilà.
Et donne donc, la réplique c'est à James Dean.
Voilà, et donc il y a une fresque historique avec où on mélange, James Ellroy sait le faire à merveille. Encore une fois, je n'ai pas trop envie de revenir sur une critique que va très très bien faire beaucoup de gens, très bien beaucoup de gens. Mais simplement une question sur une terminologie, je dirais un registre de langage qui, au départ, m'a presque choquée, qui m'a étonnée et choquée, c'est en particulier tous les propos racistes qu'on retrouve et qui, je pense, sont voulus par, évidemment, sont voulus, c'est évident, par Ellroy, pour montrer l'attitude des Américains à cette époque-là. Mais c'est excessivement violent, ces propos racistes, les moricots,
Je pense que ça aurait été encore plus violent s'il avait écrit un roman qui se passait dans les années 40.
Oui, je pense. Lui, son premier, ça a été en 58, mais c'est évident. Bah, d'ailleurs, on peut rappeler que chez le même éditeur, on a eu un très beau roman qui mêle comme ça histoire et fiction, qui sont Les enfants à l'aube de Denis Lehane, qui parle aussi de racisme au début du siècle, enfin au début du 20e siècle.
Oui.
Là aussi, c'est assez violent. Donc, on va passer à la traduction. Comment on fait pour aborder un livre comme ça, la première lecture, votre première lecture, comment ça se passe, s'il vous plaît ?
Écoutez, j'ai pas fait de première lecture parce que je n'ai pas eu le temps. Livre étant énorme, c'est rarissime. Hein, que
830 pages, je précise.
Ouais, c'est rarissime qu'on attaque directement une traduction sans avoir lu le bouquin avant. Je n'ai pas pu faire autrement parce que j'avais justement 1 500 000 signes à rendre dans un temps limité. Voilà.
Oui,
donc je l'ai découvert au fur et à mesure. Mais ça ne m'a pas déconcerté parce que j'avais traduit le précédent.
Oui, vous aviez traduit American Death Trip et puis aussi un autre qui est Destination Morgue en français.
Enfin, là, deux en autres.
Ah, pardon.
Enfin, trois autres. Moi. J'ai fait trois recueils de nouvelles et d'articles.
Oui, effectivement. Voilà. Je parlais des romans.
Oui, voilà. Alors deux romans, c'est le deuxième. Voilà. Donc j'ai fait deux romans et trois recueils de nouvelles.
Alors justement, le style est très très important chez Elroy, c'est une des choses qui happe le plus le lecteur. Tout est dans le rythme, cette syncopée, cette suite de phrases qui se télescopent. Et comment vous avez abordé ces phrases anglaises? Donc on sait qu'en anglais on peut dire beaucoup de choses, en très peu de mots, et oui. Vous arrivez à conserver ce rythme,
non,
ce style?
Non, on n'arrive jamais à conserver la concision. Pour une raison très simple, c'est que les mots français en général sont tous plus longs que les mots anglais de une ou deux syllabes, que les verbes aussi sont plus longs parce que le roman étant écrit au passé en anglais, vous avez le prétérit qui est très bref. Si on met un verbe français au passé simple, il a en général une syllabe de plus. Donc tout ça, ça ralentit le rythme et on est moins efficace. On a moins dans le staccato du texte original.
Ceci dit, encore une fois, en tant que lectrice française qui ne peut pas se permettre de lire, vu mon anglais lamentable, la version originale, il y a quand même un rythme assez effréné, un souffle dans la version française qui
oui,
correspond bien.
Heureusement gentil,
d'ailleurs, heureusement.
On fait ce qu'on peut, hein, mais on perd forcément quelque chose là, au passage d'une langue à l'autre. On perd beaucoup moins quand c'est une traduction d'un roman très littéraire en anglais, avec des longues phrases, etc. Mais avec Elroy, il y a forcément un petit quelque chose en moins.
Et
je crois que ça va être encore pire dans
d'autres
langues.
Alors aussi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans cette lecture, c'est l'ensemble des registres de langue utilisés par les personnages, que ce soit des personnages, on va dire, un peu intello ou des cramés par l'alcool, par la drogue, des petites frappes. Et comment on arrive sans tomber dans le vulgaire évident? Vous avez, je trouve, qu'une qualité dans ces romans, c'est en particulier ces traductions de James Elroy, c'est de ne pas faire dans l'instantané de la langue, on va dire, de ou 1972 ou 2009.
Oui.
Ça, c'est assez remarquable, je dirais.
Ça, c'est le talent d'Elroy d'être extrêmement précis sur les registres de langue. On voit très bien ce qu'il veut faire passer. Hein. Par exemple, quand on voit les conversations téléphoniques de Nixon avec l'agent du FBI, on a l'impression qu'il est vulgaire, mais quand on écoute les enregistrements qui existent de Nixon, c'est exactement ça.
Hein. Oui, c'est d'ailleurs... Alors ça, c'est une des choses les plus étonnantes. Ces conversations sont à la fois d'un drôlatique, on va dire,
et
c'est terrible. C'est hilarant, mais c'est terrible quand on pense qu'il a été ce temps-là aux commandes du plus grand... État du monde,
oui,
ça fait peur. Enfin, le livre entier fait peur d'ailleurs, parce que c'est vraiment un monde absolument terrible. Et je suppose, vous allez confirmer ou infirmer mes propos, que tout ce qu'avance Elroy peut être peu ou prou prouvé, parce que sinon il aurait beaucoup de procès déjà.
Oui, non, parce que il y a un principe de base, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut de quelqu'un qui est mort aux États-Unis.
Ah d'accord, oui. Je me posais la question justement pour ces acteurs comme Salmineo.
Salmineo est mort, donc il en prend plein les dents. Et même dans le volume précédent de la trilogie, il est carrément accusé d'assassinat.
Ah oui, il y a... Bon, là c'est très bref, mais il y a une petite séquence sur Nathalie Wood. On tombe de haut.
Pour Nathalie Wood.
Voilà, bon, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a quand même, lui aussi, on se demande finalement si James Elroy n'a pas plus de dossiers que John Edgar Hoover, finalement.
Ouais, c'est possible.
C'est possible. Alors, autre chose qui m'a frappée dans la traduction, et ce qui est très important pour un lecteur de base comme moi, c'est que vous arrivez à dire tout dans le texte sans avoir besoin de notes de bas de page.
Oh, il y en a quelques-unes, inévitables,
très peu.
Mais bon.
Très peu.
Le minimum. Alors, et bon, ça c'est un choix de traducteur. Il y a des traducteurs qui mettent des notes à foison. Moi, j'essaye, dans la mesure du possible, d'expliciter dans le texte.
Oui, c'est ce qui me, enfin, c'est, et c'est ce qui est très agréable parce voilà. que c'est, ça coupe souvent quand on est plongé dans quelque chose qui nous passionne, d'être obligé de se référer à un bas de page et pire, à ouais. des notes de fin de roman.
Ah, les là, notes de fin, c'est, personne ne les regarde.
Ah non, c'est, et des fois, malheureusement, parce que ça. Mais oui. C'est très intéressant, justement, de pouvoir avoir, je dirais, le dit et le non dit dans la narration elle-même, quoi, et les explications. Oui. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous travaillez beaucoup aussi? Donc, Elroy passe des mois et des mois à constituer ses dossiers. Est-ce que vous êtes obligé aussi de faire des recherches, on va dire, parallèles au fur et à mesure de la
J'en ai fait constamment au fil de la traduction, puisque je l'ai traduit, ce bouquin, sans l'avoir lu avant. Et là, je dois dire qu'on a une chance fabuleuse à l'heure actuelle, c'est Internet.
Ah oui, je suppose que ça doit beaucoup aider un... Une personne qui travaille sur un texte, là.
Oui, par exemple, pour ce roman là qui se passe entre 68 et 72, il y a énormément d'argot typique des années 60. Eh bien, j'ai trouvé très facilement un site entier qui s'appelle 60 Slang, donc l'argot des années 60, où il y a énormément d'expressions qui sont dans le bouquin.
Ah,
même des descriptions, même il y a des petits dessins qui montrent la mode des voitures de l'époque qu'on surbaissait ou dont on surélevait l'arrière ou l'avant, etc. C'est vraiment bien ancré dans l'époque.
Ouais, et encore une fois, il y a aussi toute, entre guillemets, la grande histoire, hein, puisqu'il y a en particulier ce passage, enfin, toute cette histoire sur l'implantation de casinos dans la République dominicaine après tout ce qui s'était passé à Cuba et tout ce qui va encore se passer à Cuba. Moi, j'ai appris énormément de choses.
Oui, c'est très instructif.
C'est très instructif, mais on va le dire aux auditeurs, ça reste du romanesque
pur
et dur.
Ah oui, c'est important. C'est jamais ennuyeux. Oui.
Non, jamais ennuyeux. Le temps passe, on va être obligé de clore cet entretien. Jean-Paul Gracias, on va vous remercier.
Je vous en prie.
Et je
souhaite beaucoup de plaisir, de longues lectures aux gens qui se sont précipités sur le bouquin qui est sorti aujourd'hui.
Voilà, donc on va souhaiter une jolie succès à ce livre qui le mérite. Bravo pour votre traduction. Est-ce qu'on
Merci
peut vous
beaucoup.
Demander là, ce sur quoi vous travaillez en ce moment?
Je suis en train de traduire le prochain David Peace.
Ah, encore un
deuxième le deuxième volet de la trilogie sur Tokyo.
Ah ben, ça va faire plaisir
ça
à beaucoup
Tokyo
de personnes
occupé,
qui apprécient.
Ça se passe en 48 et c'est génial. Voilà.
Encore un grand styliste.
Eh oui, c'est un régal. C'est difficile, si vous voulez, traduire un styliste, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus passionnant que de traduire quelqu'un qui s'exprime par cliché à longueur de page.
Oui.
Donc on va dire du mal au passage de Mary Higgins Clark.
Non, on n'oserait pas, on n'irait pas jusque-là. On est en début d'année. Jean-Paul Gracias, merci beaucoup. Bonsoir.
Bonsoir. 18